perkeleen tontot!
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Et bienvenue donc pour cette nouvelle pour ce lancement de nouvelle saison. Nous sommes le 3 septembre. Alors ça part un peu en patinant, mais je dois vous avouer quelque chose, c'est que encore une fois, vous voyez, je suis en train de régler le son du micro en même temps que je vous parle. Donc voilà, là, je pense qu'on est à peu près bon. Attendez, je baisse un petit peu de volume. Voilà, là, on doit être correct. Donc j'en reprends là où j'en étais. Nous sommes le 3 septembre et il est grand temps de relancer la machine. Donc eh bien, je déclare officiellement ouverte la nouvelle saison de Check Me Load. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures métal. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on ait, si vous le voulez bien, une pensée pour tous ces grands musiciens qui tous ont écrit une page de l'histoire du rock et qui nous ont quittés durant cet été qui a été terrible, puisque les disparitions, elles se sont carrément enchaînées. Donc, ayons une pensée pour Joey Jordison, Dusty Hill, Mike Howe, Jeff Labar, Johnny Solinger, John Lotton aussi, Robbie Steinhardt, Eric Wagner et bien évidemment Charlie Watts. Mais comme le chantait si bien le regretté Freddie Mercury, dont on va commémorer les 30 ans de la disparition dans quelques mois, The Show Must Go On. Et aujourd'hui, on a quand même de quoi se réjouir puisque sort Senjutsu, le très attendu 17e album studio d'Iron Maiden. Alors c'est bien évidemment l'événement de ce 3 septembre et on va en parler d'ici quelques minutes. Et puis pour ce qui est du reste du programme de ce Check Me Load, eh bien je vous présenterai deux autres sorties notables de ce jour et puis ensuite on va revenir sur une sélection de disques qui sont parus entre fin juillet et fin août. Il y en a eu pas mal cet été et bien sûr j'en présenterai d'autres dans les prochaines éditions de Check Me Load. Et puis enfin on dérogera pas à la tradition et c'est sur un air de reprise qu'on va se dire au revoir avec la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui elle va nous emmener entre Manchester et Halifax. C'est donc un long périple qui nous attend et c'est en compagnie du commandant Bruce Dickinson qu'on va entamer ce voyage. Parce que si on regarde un petit peu les dates, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, un jour près, on assistait à la sortie de The Book of Souls. Et bien, ça y est, voici enfin son successeur, Senjutsu, le nouvel album d'Iron Maiden. Et comme à chaque fois, c'est un grand événement pour les fans de ce légendaire combo, fans dont je fais partie, je dois bien l'avouer. Alors, une légende qui s'écrit depuis très longtemps, puisqu'elle a commencé en 75. Elle commence d'ailleurs presque comme un roman de Dickens, puisque c'est lors d'un de ces froids et brumeux Noël londoniens que prend vie notre Vierge de Fer sous l'impulsion du bassiste Steve Harris, qui sera bientôt rejoint par le guitariste Dave Murray. Alors, Iron Maiden, c'est la figure de proue de ce qu'on va appeler bientôt la New Wave of British Heavy Metal. Alors, ils sont pas les seuls, on peut en citer d'autres, mais je crois quand même que c'est eux qui viennent en tête. Ils vont sortir un premier album éponyme en 80, ils vont sortir en 81 l'album Killers. Les deux disques vont connaître un joli succès, mais le chanteur Paul Di'Anno, qui fait une consommation excessive d'alcool, de drogue, il va être assez vite remercié, et il va laisser sa place à un certain Bruce Dickinson, dont on va découvrir la voix et le charisme exceptionnel avec la sortie au printemps 82 de The Number of the Beast, qui va immédiatement devenir un album culte. À partir partir de là, Iron Maiden va enchaîner les succès, les tournées mondiales, va devenir un des plus grands groupes de heavy metal de la planète. Et si quelques ombres sont quand même venues un peu assombrir le tableau dans les années 90, à l'époque où le guitariste Adrian Smith et le chanteur Bruce Dickinson avaient quitté le groupe, il y a deux témoins de cette période peu glorieuse, c'est The X Factor et Virtual Eleven, et ben la formation britannique, il faut l'avouer, elle a retrouvé toute sa flamboyance lorsque les deux musiciens ont réintégré ensemble ses rangs en 99. Alors depuis, même le combat contre le cancer de Bruce Dickinson n'a pas réussi à mettre le groupe à terre, et c'est avec un Eddie qui prend sur la pochette de l'album Senjutsu les traits d'un samouraï qu'Iron Maiden symbolise aujourd'hui sa force et sa sagesse. D'ailleurs, si son artwork évoque le Japon féodal, Senjutsu, c'est un album qui est également très marqué par l'empreinte de la France, puisque tout comme son prédécesseur, c'est au studio Guillaume Tell à Paris qu'il a été enregistré sous la houlette de Kevin Shirley. Et puis, il y a une très belle pièce musicale qui s'appelle Darkest Hour, qui dure plus de 7 minutes. C'est ce genre de pièce dont Maiden a le secret. Et Darkest Hour nous mène en pleine Deuxième Guerre mondiale sur les plages de Normandie. Alors, je vais être quand même tout à fait honnête avec vous. Cet album, je suis un peu comme tout le monde, hein, je l'ai découvert en intégralité seulement ce matin. Donc impossible, voire carrément malhonnête, d'en faire une critique objective. De vous dire à cet instant précis si Senjutsu, si c'est un chef-d'œuvre ou pas. En tout cas, ce que j'en retiens à chaud, hein, c'est qu'à l'écoute de ce 17e album studio, on n'est pas dépaysé. On y retrouve les ambiances, les cavalcades, les twin guitars, tout ce qui a fait la renommée du groupe. Et je trouve que Bruce Dickinson a retrouvé encore davantage ses facultés vocales. Par contre, et c'est un peu le même point faible dont souffrait The Book of Souls. Je trouve qu'avec ses 1h28 minutes, il y a deux CD, hein, et ses trois pièces finales de plus de 10 minutes, Senjutsu, c'est un disque qui finit par traîner un petit peu en longueur, et ça c'est dommage. Alors malgré tout, mes premières impressions, elles sont très positives. L'enthousiasme que provoque la sortie de ce nouveau Maiden, il est tout à fait mérité. Voici d'ailleurs un extrait de Senjutsu avec le morceau Stratego. C'est un des plus courts du disque et c'est un titre qui plaira forcément aux fans du groupe. Do you? Vous écoutez l'émission Check Milot sur Bike FM. À l'instant, c'était le titre Stratego, extrait de Senjutsu, le nouvel album studio d'Iron Maiden qui est paru aujourd'hui. Avec ses 1h28 de musique, ce 17e album de Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Yannick Gers et Nico McBride devraient largement occuper votre week-end. Et puis j'en profite pour rappeler que si la pandémie ne vient pas une nouvelle fois s'en mêler, Iron Maiden devrait fouler la selle du Paris La Défense Arena, ce sera le 26 juin 2022. On croise les doigts. On reste dans les sorties de ce 3 septembre avec cette fois un jeune groupe qui avait fait sensation avec la sortie il y a 2 ans de Crimson Rider, son 2e album. Ce groupe c'est Bokassa et aujourd'hui il sort un 3e album explosif intitulé Molotov Rocktail. Originaire de Trondheim en Norvège, Bokassa c'est un power trio qui est mené par le chanteur-guitariste Jørn Karstad. C'est un groupe qui a vu le jour en 2013. Alors le nom du combo fait bien évidemment référence à l'empereur de Centrafrique, qui est célèbre à la fois pour une affaire de diamants, pour aussi des rumeurs de cannibalisme. Et musicalement parlant, Bokassa, c'est un groupe qui s'est autoproclamé comme faisant du stoner punk, un terme qui convient en effet parfaitement bien à son cocktail sonore qui mélange metal, hardcore, punk et stoner rock. En 2017, donc, Bokassa va sortir un premier album qui s'appelle Divide and Conquer. C'est un album qui va tomber un jour entre les oreilles d'un certain Lars Ulrich, le batteur de Metallica, et il va succomber immédiatement à la musique du trio norvégien, au point qu'il va les programmer dans son émission de radio, ce qui va leur faire une sacrée pub. D'ailleurs, Lars Ulrich kiffe tellement le groupe qu'il va les convier à ouvrir pour Metallica pendant le Worldwide Tour, et le jeune combo va alors devenir le chouchou des médias spécialisés. L'album Crimson Riders en 2019 bénéficie d'une promo d'enfer. C'est donc fort de cet engouement incroyable que Bokassa, qui a récemment signé avec Napalm Records, a repris le chemin des studios pour mettre en boîte ce 3e album Molotov Rocktail qui paraît aujourd'hui et qui donne le ton dès l'artwork sur lequel on voit une espèce de Rambo arme à la main qui chevauche un cheval ailé rose. Alors je trouve que ça symbolise parfaitement bien les titres de ce nouvel opus dans lesquels se mêle l'énergie brute et sans fioriture du punk, l'urgence du hardcore, la lourdeur du stoner et puis la dimension mélodique et accrocheuse du métal. Donc Molotov Rocktail nous donne un bon coup de fouet pour la rentrée. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau Careless in the Age of Altruism. On écoute Bokassa sur Bike FM.
Best to alive here. Zeitgeist. I no longer feel alive here. Zeitgeist. I no longer feel alive here. Zeitgeist. I no longer feel alive here. Ooh.
Careless in the Age of Altruism du power trio norvégien Bokassa, un titre avec une petite récurrence à la Offspring. C'était à l'instant sur Back FM, il s'agit d'un extrait du nouvel album qui s'appelle Molotov Rocktail, qui paraît aujourd'hui ce 3 septembre. Vous écoutez l'émission de Check Mellow, et voici maintenant la confiserie du jour. Elle est signée de The Night Flight Orchestra, qui décidément ne s'arrête jamais puisque sort aujourd'hui son nouvel album qui s'intitule Aromantic 2, qui arrive donc seulement un peu plus d'un an après Aromantic. Alors si vous êtes de fidèles auditeurs de cette émission, vous le savez déjà, The Night Flight Orchestra, c'est le side project classique hard rock de Björn Strid, le chanteur du groupe de death metal suédois Soilwork, mais aussi du guitariste David Anderson. Les musiciens se sont en effet découverts une même passion pour le hard rock et le classic rock des années 70 et des années 80. Et donc en 2007, le duo a créé The Night Flight Orchestra, qui lui permet justement de laisser libre cours à cette passion en créant un univers musical qui mélange classique rock, hard rock et rock progressif. C'est très influencé, donc comme je l'ai dit, hein, des fameuses décennies 70-80, avec notamment des claviers vintage qui sont assez omniprésents, qui s'accordent à merveille à cette ambiance science-fiction rétro du groupe, une science-fiction comme on la concevait à l'époque, dans les années 70-80, ce qui donne à l'ensemble ce petit côté kitsch qui est parfaitement revendiqué. Avec la sortie aujourd'hui d'Aromantic, la discographie de The Night Flight Orchestra, elle compte désormais 6 albums. D'ailleurs, je vous conseille particulièrement dans la discographie l'album Ember Galactic, paru en 2017, qui rend hommage à une période qui s'étale de 77 à 83, une période qu'on a un peu tendance à oublier, même à mépriser, mais qui a été extrêmement riche musicalement pour la scène rock et la scène hard rock. Je vous conseille également Sometimes the World Ain't Enough en 2018, qui nous plonge cette fois dans les sacro-saintes années 80, avec des synthés qui sont rois, qui sont au premier plan. Et puis bien sûr Aromantic, qui était paru en 2020, avec ses influences rock progressif qui vont de Yes à Asia et qui se mélangent avec l'héritage pop d'ABBA. Et bah, tout ça, ça peut vous mettre bien dans l'ambiance avant de découvrir Aromantic 2, qui est la suite directe et logique de son prédécesseur. Alors sur Aromantic 2, on est à la croisée entre Journey et ABBA. On y revient encore une fois à ce fameux groupe de pop suédois. Mais il y a des touches dans ce disque qui ne manqueront pas de rappeler Toto, Survivor, Genesis, époque 80 bien sûr, Styx ou encore Rick Springfield. Aromantic, c'est un feu d'artifice multicolore qui est composé de 12 chansons totalement entêtantes, des chansons qu'on dévore goulûment avec un plaisir coupable. Et bien que la nostalgie de cette époque qui paraît aujourd'hui tellement insouciante domine sur cet album, faut pas perdre de vue ou d'oreille que ces nouvelles compos signées The Night Flight Orchestra sont à la fois extrêmement bien écrites et extrêmement bien exécutées. On le savait déjà et Aromantic 2 ne fait que le confirmer. Björn Strid, c'est un chanteur absolument génial, exceptionnel. Avec son équipage, il nous entraîne dans un voyage spatio-temporel des plus agréables. Je crois qu'on peut dire qu'Aromantic 2, c'est un grand cru dont voici un extrait avec un délicieux cépage qui porte le nom de Chardonnay Night. Enjoy, c'est The Night Flight Orchestra sur Bike FM. Petit clin d'œil à notre chère Bourgogne à l'instant sur Back FM avec le titre Chardonnay Nights, extrait d'Aromantic 2, le nouvel album de The Night Flight Orchestra, le side project classique hard rock du chanteur Björn Strid, un album paru aujourd'hui. Et en ce 3 septembre, donc, Check Me Load fait son retour dans les ondes. On est en direct après un mois et demi de pause, de vacances. Donc il y a beaucoup de bons albums qui sont parus durant cette période et je vais maintenant vous en présenter quelques-uns. Le premier, bah, il est encore tout frais, hein, il est paru vendredi dernier, le 27 août, c'est le nouveau Ginger. Il a pour titre Wallflowers et il s'agit du 6e album du combo ukrainien désormais incontournable, mené par l'incroyable Tatiana Shmalyuk, qui passe, elle passe d'une façon totalement insolente du growl le plus caverneux au chant le plus suave au monde. Ça a d'ailleurs certainement largement contribué à cette notoriété acquise ces derniers temps par Ginger. Alors Ginger, c'est un groupe qui a déjà un petit peu d'ancienneté, enfin une douzaine d'années, puisque l'histoire elle débute en 2009 dans la ville ukrainienne de Orlivka. Au départ, c'est un garçon qui tient le micro, mais il va rapidement le céder à Tatiana. Et elle, en fait, elle pourrait être la fille cachée de Danny Fields et d'Angela Gossow. D'ailleurs, on peut souligner que Ginger a effectivement tourné il y a quelques temps en première partie des Cradle of Filth, mais aussi en première partie d'Arch Enemy. Même si musicalement, faut quand même bien l'avouer, le combo joue pas du tout dans la même cour, puisque Ginger pratique un metalcore aux sonorités death, new metal et rock progressif. Alors par exemple, Ginger revendique des influences aussi variées que Slayer, Opeth, Gojira ou Cypress Hill. En Ukraine, le combo va se faire remarquer dès 2013 en remportant le prix du meilleur groupe de métal pour son premier album qui s'appelle Inhale Do Not Breathe. Et puis l'année suivante, eh bien Ginger sort Cloud Factory qui va être réédité en 2018 par le label Napalm Records sur lequel il signe en 2016 et sur lequel il sort la même année l'excellent King of Everything qui contient la fameuse chanson Pieces qui est certainement la plus emblématique du groupe, du moins pour l'instant. Et puis enfin, en 2019, ça a été une grande année pour Ginger puisque en début d'année ils ont sorti l'EP Micro et puis en fin d'année l'excellent album Macro et tout ça leur a permis de devenir un des rares groupes de la scène métal ukrainienne à réussir l'exploit d'exporter sa musique à travers toute la planète. Et tout ça c'était visiblement qu'un début hein, parce que à l'écoute de Wallflower, son petit dernier, eh bien Ginger devrait continuer à tout ravager sur son passage. Alors si vous vous demandez si la brutalité et la classe peuvent se côtoyer, cohabiter et communier, avec Ginger la réponse est sans appel, c'est oui. Loin de naviguer à vue, les membres du groupe ont su conjuguer avec la plus grande intelligence et le plus grand talent la sauvagerie et la finesse, la noirceur abyssale et la luminosité éclatante. Tout comme c'était le cas avec l'album Macro, Wallflowers, c'est un album également qui est riche en influence, en sonorité, mais je trouve que l'ensemble est bien plus cohérent et surtout bien plus maîtrisé. Et Ginger, on peut dire que le groupe signe là une pièce maîtresse de sa discographie. Voici un extrait de Wallflower avec le titre Mediator. On écoute Ginger sur Back FM.
Stop! Go! Go on! spreading all around towns, and all we feel is gone.
J'espère que la sélection du jour dégrippe un petit peu vos conduits auditifs. Vous écoutez l'émission Metal Check Me Load sur Mac FM avec à l'instant le morceau Mediator du groupe Ginger qui a sorti vendredi dernier l'album Wallflowers qui est une petite pépite. On s'est intéressé en début d'émission au jeune power trio Bokassa. En voici maintenant un autre power trio dont la réputation n'est plus à faire. Il s'agit de Danko Jones qui, comme Ginger, a choisi le 27 août pour nous envoyer pleine face son nouvel album simplement et justement intitulé Power Trio. Signalons d'ailleurs qu'à ses débuts, au milieu des années 90, le combo canadien originaire de Toronto était un projet solo qui a été initié par le chanteur-guitariste Danko Jones, qui en est toujours à la tête, mais qui sera très vite rejoint par le bassiste John Calabrese, qu'on peut presque considérer comme un membre fondateur. Quant au poste de batteur, ben alors là c'est un peu plus compliqué, il a été occupé par 7 musiciens différents, et depuis 2013, c'est Rich Knox qui est derrière les fûts. Alors, Danko Jones, c'est un groupe qui désormais est à la tête d'une discographie composée de 10 albums studio. C'est un groupe qui est considéré depuis ses débuts comme étant ce qu'on appelle un groupe de scène. Alors il faut dire que son hard rock aux sonorités garage, punk et blues rock, il est particulièrement taillé pour le live. Pour vous donner une vague idée, les principales influences de Danko Jones, elles ont pour nom Kiss, Thin Lizzy, The Ramones, Slayer, AC/DC ou Motorhead. Côté studio, le trio sort son premier album Born a Lion 2002, et puis l'année suivante, il va enchaîner avec l'excellent We Sweet Blood avant de prendre en quelque sorte son rythme croisière avec un album à peu près tous les 2 ou 3 ans. Alors, parmi ses meilleures productions, j'ai envie de vous conseiller Below the Belt paru en 2010, Fire Music en 2015 ou encore l'excellent Wildcat en 2017. En tout cas, on l'avait laissé sur le très réussi Rock Supreme en 2019. Et une fois que vous aurez écouté tout ça, vous serez paré pour découvrir Power Trio qui s'inscrit naturellement dans la droite lignée de ses 9 prédécesseurs. Un peu à la manière d'un groupe comme AC/DC, on est rarement, voire jamais surpris et déçu par un nouvel album de Danko Jones. On en connaît toutes les recettes, tous les rouages, tous les secrets, mais peu importe, et c'est peut-être même tant mieux, puisque c'est finalement ce qu'on attend d'eux. Imaginez la déception si d'un coup Danko Jones nous balançait un album prog. Je pense que voilà, les fans seraient pas contents du tout. Avec Power Trio, pas de surprise, on pousse le volume à fond, on profite du bon gros son rock'n'roll et de l'énergie brute et communicative de nos Canadiens. Voici d'ailleurs l'explosif I Want Out, donc qui ouvre le disque les deux doigts dans la prise. Voici tout de suite Danko Jones. Vous écoutez l'émission Check Me Out sur Bike FM et à l'instant c'était Danko Jones avec le titre I Want Out, extrait de l'album Power Trio paru vendredi dernier qui célèbre les 25 ans de carrière de ce formidable Power Trio canadien. Alors il y a 5 ans, le célèbre groupe de hard rock américain Twisted Sister faisait ses adieux à la scène et l'emblématique chanteur du groupe, Dee Snider, aurait pu alors très bien choisir de prendre sa retraite, mais il n'en est rien. D'ailleurs il n'est pas si vieux que ça, hein, Dee Snider, faut pas non plus exagérer. Bien au contraire, l'artiste hyper actif officie désormais en solo et il ne cesse de nous surprendre depuis. Sa dernière surprise en date, elle a pour nom Live Scare et elle est dans les bacs depuis le 30 juillet. Alors pour les profanes en matière de hard rock et de heavy metal, il y en a peut-être parmi nos auditeurs, Dee Snider, il débute sa carrière de chanteur en 76 lorsqu'il rejoint le combo new-yorkais Twisted Sister avec qui il va écrire une partie de l'histoire de la chaîne MTV au début des années 80 avec des hits tels que You're Not Gonna Take It ou I Wanna Rock qui seront diffusé en boucle et que vous pouvez trouver sur l'album Stay Hungry. C'était le troisième album de Twisted Sister et il est paru en 84. Malgré une période assez instable de séparation et de reformation entre 89 et 2001, le groupe va sévir pendant 40 ans, il va sortir 6 albums et c'est à la suite du décès de son batteur E.J. Perreault, qui meurt en pleine tournée, hein, que Twisted Sister va en partie décider de mettre un terme à sa carrière. Alors désormais, Dee Snider, il peut se consacrer à 100% à sa carrière solo, qui avait débuté quelques années plus tôt en 2000. Cette année-là, il avait en effet sorti un premier album qui s'appelait Never Let Me The Bastard Near You Down, c'est ça le titre complet. Et puis 12 ans plus tard, en 2012, il avait sorti un deuxième album qui lui s'appelait Broadway. Mais c'est pas ses meilleures productions, hein. Ses meilleures productions, c'est sans conteste We Are The Ones paru en 2016 et For The Love Of Metal paru en 2018. Alors à travers ces albums-là, Dee Snider nous montre une réelle volonté d'aller de l'avant à travers un son qui est très moderne, qui est plein de nouvelles influences. Une volonté qui est toujours présente, peut-être même encore plus vive que jamais, sur Live Scare qui est paru fin juillet, qui tout comme son prédécesseur a été produit par Jamie Jasta du groupe de metal hardcore Hatebreed. Alors Alors sur cet album, Dee Snider est accompagné d'un excellent line-up qui se compose des frères Belmore à la guitare et à la batterie, de Russell Pzuto à la basse et de Nick Petrino à la deuxième guitare. Et donc Dee Snider avec son groupe, il se balade à travers les styles, à travers les époques. On va du heavy glam à la Twisted Sister à un heavy ultra moderne que ne renierait certainement pas certains groupes de metalcore, en passant par des morceaux beaucoup plus trash et voire death, avec la participation du chanteur George Korsbrander, Fischer du groupe Cannibal Corpse. Leave the Scar, du coup, avec tout ça, c'est un album qui est très puissant, qui est sans concession, c'est un album qui fait du bien. Et on voici justement un extrait avec le dévastateur Time to Choose, interprété en featuring avec Korsbrander. Vous allez halluciner, voici Dee Snider. Le hard rock glam de Twisted Sister rencontre le brutal death de Cannibal Corpse, ça donne ce titre, Time to Choose, qui est un extrait de Leave a Scar, le nouvel album solo de Dee Snider, qui s'offre ici un featuring détonnant avec George Korsbrander Fischer. Le disque est dans les bacs depuis fin juillet. Vous écoutez l'émission de Check Me Load sur Back FM, et pour cette première de la saison, on se balade à travers les sorties qui ont marqué l'été, et parmi elles, on trouve un groupe français qui renaît de ses cendres. Au début des années 80, Sortilège représentait l'avenir du hard rock français aux côtés de Satan Joker, Vulcain, Killers, ADX ou H-Bomb. Malheureusement, le groupe va se séparer en 86 et il faudra attendre 2019 pour entendre de nouveau parler de lui. Alors depuis, il a encore connu quelques péripéties, mais le 27 août, il est enfin rené de ses cendres, comme je le disais, avec un album qui porte justement le nom de Phoenix. Mais avant d'en parler, eh bien revenons quand même quelques instants sur la carrière de Sortilège. Et c'est à Paris que ça débute, cette histoire-là, en 80. À l'époque, le groupe s'appelle Bloodwave, mais l'année suivante, de suivante, il se rebaptise Sortilège et il accueille deux nouveaux membres, le chanteur Christian Augustin alias Zouille et le bassiste Daniel Lapp, qui viennent donc compléter le line-up d'origine composé de Stéphane Dumont et Didier Demagent aux guitares et puis de Jean-Philippe Dumont à la batterie. Entre 83 et 86, Sortilège sort trois albums studio. Il y a tout d'abord Sortilège et puis ensuite il y a Métamorphose et enfin L'Arme de Héros. Le groupe va trouver son public en France, un peu en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique, mais le groupe va aussi échouer dans sa tentative de percer à l'échelle internationale et donc ils vont préférer se séparer. Tous vont partir dans des directions différentes et seul Zouille va rester dans le paysage hard rock à travers des collaborations avec Renaud Hanson de Satan Joker. L'annonce de la reformation de Sortilège en 2019, donc pour une série de concerts, ça a été une réelle surprise, mais l'arrivée du Covid peu de temps après, ça a mis un coup d'arrêt à ce retour. Et puis quelques mois plus tard, on assistait à un nouveau coup de théâtre au sein de Sortilège avec la scission du groupe en deux unités. Alors celle qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est celle qui est menée par le chanteur Christian Zouille Augustin, qui est désormais accompagné par Bruno Ramos et Olivier Spitzer aux guitares, par Sébastien Bonnet à la basse et par Clément Rouxel à la batterie. Et vendredi dernier, donc, le groupe a sorti l'album Phoenix, alors qui a une petite particularité, c'est en fait il est composé de 12 classiques de la discographie de Sortilège qui ont été réenregistrés avec le line-up actuel et le son actuel aussi. Et puis on y trouve quand même deux titres inédits. Alors eux, c'est un peu un prélude à un nouvel album qui est prévu pour 2022, si tout se passe bien. Et d'ailleurs, ce nouvel album, lui, sera composé à 100% de nouveaux morceaux. Alors, en attendant, Phoenix, moi, je trouve que c'est la bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir le heavy metal aux accents power de Sortilège, avec bien sûr des textes dans la langue de Molière. Et en voici un extrait de Phoenix, avec le titre Messager, paru initialement en 86.
Je cours vers mon empereur.
Les vétérans du hard rock hexagonal Sortilège sont de retour dans les bacs après 35 ans d'absence. Vous venez d'écouter la version 2021 du morceau Messager, extrait de l'album Phoenix, qui est disponible depuis vendredi dernier. Et je rappelle que Sortilège prévoit de sortir un album de compo inédite en 2022. J'espère que vous êtes bien à l'écoute de Bac FM et que ce premier check me load de la saison vous plaît. L'heure tourne à toute vitesse. Du coup, ce que je vous propose, c'est de découvrir une dernière nouveauté avant d'enchaîner sur la rubrique Sortez Cover. Et c'est également un album paru le 27 août que je vais vous proposer. Il est signé du groupe norvégien Les Prousses et son titre à cet album, c'est Aphelion. Alors, Les Prousses, qui fête d'ailleurs ses 20 ans de carrière cette année, nous vient de Notodden, une ville qui a vu naître quelques grands noms de la scène métal extrême, tels que Emperor, Issan, Mortis ou Pekatum. Les Prousses, c'est un groupe qui est mené depuis toujours par le chanteur clavier et principal compositeur Einar Solberg. C'est un groupe de métal progressif avant-gardiste en perpétuelle mutation. Ses influences, elles sont extrêmement larges et variées. Ça va de Porcupine Tree et The Dillinger Escape Plane jusqu'à Radiohead, Depeche Mode, Massive Attack ou encore The Prodigy. D'ailleurs, Les Prousses met un point d'honneur à toujours se renouveler, à toujours approfondir son univers musical. Ça, vous pouvez le constater à chaque nouvelle production studio. Un univers que Einar Solberg et son groupe ont d'ailleurs mis assez longtemps à construire, puisque le premier album de Les Prousses, qui s'appelle Tall Poppy Syndrome, ne paraît qu'en 2009. Et c'est avec l'album suivant, Bilatéral, en 2011, que Les Prousses va commencer réellement à se faire un nom auprès d'un public amateur. Non seulement le disque est encensé par les médias, mais en plus, il permet au groupe de signer avec le label Nuclear Blast, sur lequel va sortir l'excellent Call en 2013, qui fera très forte impression. Les albums suivants, The Congregation en 2015, Malina en 2017 et surtout Pitfalls en 2019 vont recevoir également un accueil extrêmement enthousiaste de la part des médias. Pitfalls, qui d'ailleurs, faut le signaler, se distinguait de ses prédécesseurs par une approche de plus en plus pop de la part de Les Prousses, qui avait pris avec cet album de très gros risques qui sont quand même avérés assez payants. Et du coup, avec Aphelion, qui est paru vendredi dernier, Les Prousses poursuit dans cette même direction. Le groupe hésite d'ailleurs pas à mettre les guitares un petit peu plus en retrait au profit des claviers, et force est de constater que ça fonctionne à merveille. On se laisse très rapidement envoûter par la musique cinématique et atmosphérique des Norvégiens, et si les 10 titres qui composent Aphelion possèdent une dimension pop qui donne l'impression d'une certaine légèreté, elles n'en sont pas moins mélancoliques et émouvantes. En tous les cas, chaque morceau possède sa propre identité, et si ce nouvel album refroidira certainement une partie du public, ça n'empêche qu'il est extrêmement classe, il est extrêmement sincère et extrêmement réussi. Aphelion, c'est, on peut dire, une véritable pièce de joaillerie. Voici tout de suite Les Prousses avec un morceau qui s'intitule Out of There, extrait donc de ce fameux Aphelion.
Never thought I'd go this far, being tied up by this old chain. Have you ever seen a star trapped inside its old remains? Can't accept that I am lost in what seems to be the new reality. Every bridge that I have crossed reminds me of the time I was free. Can't relate to this at all. Where can I go to find my inner spirit back? I find it hard to find. Out of here, everywhere. Alas, no.
Si vous avez trouvé un petit côté Muse à ce morceau, c'était Out of There du groupe norvégien Les Prousses et c'est un extrait de leur nouvel album Aphelion paru vendredi dernier. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM et j'ai dépassé largement le temps qui m'était imparti, donc je vais rendre l'antenne, mais avant qu'on se quitte, on va écouter une petite reprise avec la rubrique Sortez Cover qui pour cette nouvelle saison va nous emmener en Grande-Bretagne. On va s'intéresser en effet à la revisite d'un classique des Smiths par le groupe Paradise Lost. Donc vous voyez, entre Manchester et Halifax, il n'y a pas énormément de kilomètres, c'est faisable je crois en une heure. Et le titre en question c'est How Soon Is Now, qu'on va donc écouter à la sauce doom gothique dans une version qui est parue en 97 à l'époque de l'album One Second du groupe Paradise Lost. Alors pour dire deux mots de la version originale, elle est donc, comme je l'ai déjà mentionné, signée de The Smiths, un groupe de post-punk rock alternatif fondé en 82 à Manchester et mené par le chanteur Morrissey, qui se distingue eh bien, de par sa voix de baryton qui est extrêmement identifiable. Le groupe il sera actif que très peu de temps puisqu'il va se séparer en 87, mais il va laisser une discographie de 4 très bons albums, parmi lesquels on trouve de nombreux titres qui sont devenus des classiques du rock britannique. Et parmi eux, on trouve How Soon Is Now, un titre qui n'était pas destiné à connaître un tel engouement, puisque lors de sa première sortie en août 84, il figure en face B d'un maxi 45 tours de William It Was Really Nothing. Alors c'est un morceau qui a été composé par Morrissey et par le guitariste Johnny Marr au Soon Is Now, et on va le retrouver à l'automne suivant sur la compilation Hatful of Hollow. Alors la chanson, comment elle se compose? C'est assez simple, c'est une sorte de ritournelle qui est composée d'un vers répété deux fois, d'un refrain et d'un vers de transition. C'est une chanson qui est inspirée d'une phrase, du moins pour son ouverture, d'une phrase du roman Middlemarch de George Eliot, et cette chanson elle évoque la timidité maladive d'une personne qui éprouve d'énormes difficultés dans ses relations sociales. Et alors certains supposent que The Smiths parle à travers cette chanson d'homosexualité. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'impact de How Soon Is Now est extrêmement important. La chanson va connaître plusieurs reprises notables. Alors il y en a une du duo Tattoo au début des années 2000, mais il y a surtout celle du groupe de rock américain Love Spit Love en 94 qui va figurer 2 ans plus tard sur la BO du film The Craft et qui ensuite va devenir à la toute fin des années 90 le générique d'une série qui s'appelle Charmed, qui est très connue. Hein. Alors moi c'est pas ma série préférée, mais n'empêche que tout ça, ça fait que la chanson How Soon Is Now, ça fait que c'est devenu finalement une partie de pop culture. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant How Soon Is Now de The Smiths, revue et corrigée avec cette sauce doom gothique par le groupe Paradise Lost. Ce titre, vous pouvez le trouver en bonus track sur certaines éditions de l'album One Second, donc paru en 97. Quant à nous, si tout va bien, eh ben on va se donner rendez-vous, même heure, même station, la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une sélection d'albums du jour déjà. Et puis, ensuite, ce sera une nouvelle fois une petite rétrospective des albums qui sont parus cet été. Il y en a encore beaucoup que j'ai pas présentés. En attendant, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous.